Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est ensemble pendant une heure jusqu'à 15h avec Rémi Barré, Thierry Moreau, Benjamin Hamar et Perico Légas. Et avec vous, bien sûr, grâce au 3216, votre numéro, grâce à l'appli RMC, vous pouvez bien sûr nous laisser un message pour réagir à cette taxe de 5 euros pour les visiteurs de Venise. Est-ce qu'il faut faire payer à l'entrée des villes touristiques pour limiter leur fréquentation? Il y aura RMC Conso, bien sûr, à 14h30. On parlera de la publicité ciblée. Comment faire pour enfin s'en débarrasser? Et puis les amants câble, Rémi, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui.
Oui, et on parlera notamment d'une convocation par la police de Mathilde Panot, la chef de file des députés de la France Insoumise. C'est une enquête qui porte sur le communiqué officiel du 7 octobre de la France Insoumise au moment de l'attaque par le Hamas d'Israël qui avait refusé de qualifier de terroriste le mouvement du Hamas.
Et on aura Vincent Serroussi, notre humoriste, à 14h50.
RMC Estelle Midi.
14h03 sur RMC, on poursuit Estelle Midi avec le chiffre du jour. 5 euros, c'est ce que doivent désormais débourser les visiteurs de la ville de Venise. Une taxe qui a pour but de limiter la fréquentation de la ville. Alors en France, on sait que quelques sites touristiques comme les Calanques ou encore Bréa ont mis en place des jauges, mais personne n'est encore allé jusqu'à faire payer l'entrée d'une ville. Est-ce que ce serait possible, Rémi?
En France, oui, dans l'absolu. Et en 2019, lors de la campagne pour les élections municipales, cela faisait partie du programme d'un candidat à la mairie de Saint-Paul-de-Vence. Son idée, c'était de faire payer l'entrée du village à 5 euros, sauf pour les habitants de la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur. D'après lui, avec 2 millions de visiteurs chaque année à Saint-Paul-de-Vence, cela aurait permis de ramener 10 millions d'euros dans les caisses municipales et surtout de limiter le flux de touristes. Bon, finalement, la mesure n'a pas vu le jour. Reste que le sujet reste plus que jamais d'actualité. À Marseille, on le sait, depuis l'été dernier, deux calanques sont désormais accessibles uniquement sur réservation gratuite, hein, mais il faut réserver lors de certains week-ends et durant tous les mois de juillet et d'août, juillet et août, où l'accès à l'île de Porquerolles est désormais limité à 6000 personnes par jour. Et dernier site en date à avoir décidé d'instaurer ce type de quota, c'est l'île de Bréa, en Bretagne, que tu connais bien, oui. Estelle. En 2022, lors des journées les plus chargées, plus de 6000 personne s'était rendu sur cette île qu'il faut rappeler qui fait 3 km². Donc il y avait un peu beaucoup de monde. L'an passé, le flux a été limité à 4700 personnes maximum par jour et ce n'est certainement qu'un début.
Et ils le refont cette année, Bréa, justement, ils limitent à nouveau le flux de touristes. Alors faut-il faire payer l'entrée des villes touristiques pour limiter leur fréquentation, Benjamin Hamar?
Alors, ce qui est indéniable, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui deviennent un luxe pour des millions de Français. Aller au restaurant, ça devient un luxe. Voyager et faire du tourisme, ça devient un luxe.
Bien sûr.
Il y a énormément de gens qui utilisent le système D, c'est-à-dire qui vont chez des amis, qui vont effectivement dans des appartements, ils peuvent être logés par des amis, etc. Alors là, bien sûr, les sommes que j'ai vues, par exemple, j'ai cru voir qu'à Venise, ils proposaient, c'était la somme de 5 euros.
5 euros pour rentrer dans la ville.
Donc, ça semble une petite somme, mais cumulée avec tous les frais, si c'est 5 euros par personne, pour une famille de 5 personnes, c'est 25 balles. Et quand on sait que derrière, le prix d'une semaine de voyage peut paraître exorbitant pour beaucoup de Français, c'est des frais en plus.
Et c'est une ville qui risque de disparaître.
Sans doute. Oui, mais donc ça veut dire que in fine, si on poursuit dans cette logique-là, au nom d'un certain nombre de considérations, le tourisme va devenir de plus en plus une activité socialement différenciée, et qu'il y aura de plus en plus, effectivement, de moins en moins de classes populaires et de classes moyennes qui pourront voyager. Donc à ce titre, dès lors que on n'arrive pas à augmenter les salaires, dès lors que on n'arrive pas à faire progresser le pouvoir d'achat pour l'ultra majorité des gens, je suis contre. Voilà. Parce que quand vous interrogez les gens sur leurs conditions de vie, ils disent les frais augmentent, tous les frais augmentent, ordinaire comme extraordinaire. Oui. La seule chose qui n'augmente pas, c'est mon salaire.
Oui, mais si par exemple, tu as les Calanques et Bréa continuent à être saccagés par les touristes, c'est ça le problème en fait, c'est que effectivement, tu as plein de piétinements, donc ça abîme les pierres, ça abîme les végétaux. Il y a un problème aussi sur la faune. Bon, c'est les petits paradis, parce que ce sont des petits paradis.
Et ce seront.
qui disparaîtront. Et tout ça parce qu'on a voulu faire donc, plaisir à tout le monde.
On va pousser la logique, parce que là, pour le moment, c'est des petites sommes. On rentre, on met le petit doigt dedans, on va voir jusqu'où ça va aller. Ouais. Et bien, pour reprendre ton expression, ça va être des petits paradis fréquentés de plus en plus par des gens qui en ont les moyens. Et les pieds des classes populaires et des classes moyennes, eux, ne les fréquenteront de moins en moins. Donc, moi, je veux dire, à un moment, il faut tout mettre sur la table. Si on décide, encore une fois, des frais supplémentaires, alors, encore une fois, pour de bon, on pose la question des salaires dans ce pays.
Perico Légas, est-ce que vous êtes d'accord avec Benjamin Hamar ou au contraire, est-ce que pour vous, il faut protéger à tout prix les villes touristiques remarquables ?
Benjamin pose le problème dans sa cruauté. Il y a une réalité. La démographie mondiale et la mondialisation fait qu'on a un tourisme de masse qui est dévastateur, en particulier pour certains points de chute qui ne sont pas faits pour accepter autant de touristes sur ce rythme et sur cette fréquence-là. En plus, un tourisme qui est un peu moins, entre guillemets, éduqué et qui est nocif, en ce sens qu'il se comporte mal et que les infrastructures qui les accueillent ne sont pas équipées pour accueillir autant de nombre. Alors, il y a deux moyens de limiter la fréquentation. Soit on le fait par quota numéraire, on fixe tant de personnes, des jauges. Soit on le fait par la ségrégation sociale, parce que ce que définit Benjamin, c'est une ségrégation sociale. Alors, on pourrait dire, mais est-ce qu'on pourrait avoir une aide gouvernementale pour les gens qui vont envoyer le dossier ? Ben, une bourse.
On ne va pas faire un chèque tourisme.
Voilà. Ou alors défalquer. Donc, c'est inextricable. Et c'est vrai qu'au final, ce sont les gens qui ont les moyens. Donc, les gens qui ont déjà accès à une culture privilégiée, qui ont un niveau social évidemment avantagé, qui pourront accéder à ces lieux merveilleux. Et puis, la plèbe, le populo restera à l'extérieur parce qu'il n'aura pas les moyens. Donc, je pense qu'il faut venir, tout le monde a le droit. Je pense qu'il faut venir au quota numéraire, aux jauges. C'est appliqué dans beaucoup de pays. Alors ensuite, vous avez des sites comme l'Alhambra de Grenade, qui est un site énorme, mais c'est quand même un côté musée. Donc c'est payant.
J'y suis allé à l'Alhambra et t'es pas gêné par le monde, parce qu'en fait, il faut vraiment marcher pour y aller.
Alors d'abord,
ça aussi.
Il y a les deux. Il y a le quota et l'argent.
Mais oui, voilà. Mais il y a aussi la forme physique. C'est simple. Hein. Si tu veux aller à l'Alhambra à Grenade, t'as quand même intérêt à être en bonne forme. Ça limite.
Et c'est vrai que vous avez des gens qui quittent Venise, des gens qui sont là depuis plusieurs générations, qui quittent Venise parce que c'est invivable. Avec le paradoxe que quand vous êtes à Venise, il y a un couloir touristique où les masses s'entassent, et vous faites 300 mètres derrière et vous avez le paradis de Venise. Voilà. Donc c'est un vrai problème. En tout cas, il faut trouver une solution. Et nous retombons dans la phrase de Jean Missler extraordinaire, parce que là, on est confronté à cette réalité.
Vas-y, c'est ma phrase préférée.
On va la prononcer ensemble. Le tourisme est une industrie qui consiste à déplacer vers des endroits qui seraient mieux sans yeux, des gens qui seraient mieux chez eux.
Thierry Moreau, vous seriez d'accord pour faire payer une entrée justement pour aller visiter des villes touristiques ?
Alors je dirais pas comme Perico que c'est encore la faute du néolibéralisme, parce que c'est un peu ça que tu disais derrière. Mais en revanche, je serais assez d'accord avec Benjamin. On peut se rejoindre. Je pense qu'effectivement, une ségrégation par l'argent est problématique. Donc moi, je suis vraiment pour les jauges. Et ça date pas d'hier. Ah, souvenez-vous, les grottes de Lascaux, par exemple, étaient un site qui était absolument magnifique, qui était dégradé par une sorte de surtourisme. Alors évidemment, ce n'était pas un surtourisme de masse parce qu'il y avait des gens qui allaient, mais les fresques se dégradaient. Et donc, on a fermé carrément et on en a créé une à côté, une réplique exacte. Je pense que les jauges sont la réponse adaptée. Si on va dans l'idée de la ségrégation par l'argent, là, c'est 5 euros pour entrer à Venise, mais on peut très bien imaginer qu'une mairie de Corse, par exemple, dise que cette crique, elle sera accessible contre un paiement de 1000 euros, auquel cas ce sera un yacht qui pourra y aller avec beaucoup d'argent.
Mais quand tu vas dans un théâtre romain, par exemple, dans d'autres villes, etc., tu payes, alors que pour le coup, c'est aussi naturel, etc.
Qu'on paye pour l'entrée à un monument pour payer les guides, les machins, les trucs, ça c'est une chose.
Mais t'as Saint-Paul de Vence et t'en as même une ville monument, par exemple.
Non, mais il y a des choses qui sont faites depuis très longtemps. Le Machu Picchu, je me souviens, mon père, il y a une quinzaine d'années, m'a dit qu'il y avait eu des restrictions pour aller au Machu Picchu parce qu'il y avait trop de monde et que ça abîmait le site. Donc, il faut jauger, interdire aux gens d'y aller. Et donc, ça s'étalera sur plus de temps. On n'ira pas cette année, on ira une année suivante. Je pense qu'on ne peut pas faire autrement.
Mais l'argent, ça permet aussi de réparer. Alors, là, par exemple, quand Rémi a donné l'idée de Saint-Paul-de-Vence, du maire qui voulait faire payer, ça aurait rapporté 10 millions d'euros à à la commune, bah, ça te permet aussi de faire des réparations.
Mais
de
la
faire
commune, elle a déjà énormément d'argent avec les revenus du tourisme.
Oui.
Elle en a déjà.
Avec les achats de clés, ça suffit. Rajouter une taxe juste pour
ça t'éviterait
rentrer.
Justement d'être une ville où tu vends que des porte-clés.
Mais ils vendront quand même
des mauvaises crêpes comme le Mont-Saint-Michel.
Et ils continueront à faire
même les porte-clés. Donc non. Et puis c'est quelque chose qui existe depuis toujours. Lourdes a été un problème pendant un certain temps. Ils ont été obligés de réguler. Ça date du 19e. Enfin, après l'explosion du tourisme de masse, ça date de 1960. Mais quand Thomas Cook commence à faire des trains pour emmener des gens dans des endroits, c'est déjà, on appelle ça du tourisme de masse. Après, ça explose à partir de 1960, et ça devient problématique maintenant, à cause de la planète, évidemment.
Rémi, vous avez plein de messages sur la pierre.
Un message pour sourire de Jean d'Auckland qui nous écrit « Il est gonflé, Benjamin Hamard. C'est quoi ce qui est scandaleux, 5 euros pour Venise ou 10 euros pour un sandwich chez SNCF ?»
Ah, mais ça, il faut dire ça à M. Farandou. Hein. C'est lui qui fixe les prix.
Je crois que je préfère payer 5 euros pour aller à Venise. Mais bon, ça, c'est une question
de goût. Le prix des sandwichs chez SNCF, oui, tourné vers M. Farandou.
Évidemment. Allez.
Par un retraité payé à 100%.
On a Guy qui nous appelle de Périgueux, très jolie ville. Bonjour Guy.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Guy, est-ce que vous seriez favorable à un petit ticket justement pour entrer dans les villes touristiques, voilà, une petite participation de la part des touristes?
Ah non, pas du tout. Pas du tout, et c'est une chose qui me gonfle par excellence.
Mais pourquoi?
Ah non, attendez, on va interdire ou limiter l'accès à ceci, l'accès à cela, après on va limiter l'accès camping-car, l'accès à la ville, l'accès aux voitures, l'accès à ceci, on va tout limiter quoi, on arrête tout.
Mais Guy, à un moment, les sites très touristiques, ils sont abîmés par les touristes. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour se protéger? Si vous aviez, après Périgueux, c'est une très jolie ville, si vous aviez plein de touristes sans arrêt autour de vous, vous seriez peut-être content qu'on fasse payer l'entrée.
Écoutez, vous êtes parisien, vous avez l'habitude de voir du monde. Moi, quand je vois du monde sur une zone, j'y vais pas.
Oui.
Je vais ailleurs.
Oui, mais par définition, là où il y a du monde, c'est parce que c'est des sites touristiques remarquables, comme la ville de Venise, par exemple.
Oui, mais moi, ça ne m'intéresse pas d'y aller à partir du moment où c'est blindé de monde, blindé de touristes, qu'on est... C'est très très cher en plus. Bon, c'est inabordable. Si en plus on doit payer un accès.
D'accord. On laisse comme c'est alors.
On va faire payer aussi l'accès aux routes. On va faire le payer. On fait payer quoi?
C'est déjà le cas sur les autoroutes.
Oui, c'est déjà le cas sur les autoroutes. D'ailleurs, moi je ne prends plus l'autoroute. Mais après,
vous avez des villes. Là, pour moi, j'étais en Italie, j'étais sur les Cinque Terres, et les villages des Cinque Terres, en fait, sont fermés par une barrière, et on ne peut y accéder qu'à pied, en train ou en bateau. Ah. En revanche, tu laisses ta voiture hyper loin, ce qui évite effectivement certains désagréments. Donc, il y a aussi des villes qui se barricadent entre guillemets.
Là, ça n'est pas un critère économique, c'est un système d'accessibilité.
Oui, mais ça veut dire que quelqu'un qui est handicapé, disons bonjour pour aller. Donc, c'est aussi, et je suis désolée, quand je disais tout à l'heure, l'Alhambra, il y a moins de monde. Mais aujourd'hui, il y a une forte partie de la population qui est en surpoids. Et il y a certains sites touristiques, si vous êtes en surpoids, vous ne pouvez pas y aller. Ah. C'est une discrimination ou ce n'est pas une discrimination? Aujourd'hui, les Cinque Terres, je t'assure que si tu es en surpoids, tu ne vas pas aller en randonnée, tu ne vas pas pouvoir les faire. Donc c'est une discrimination pour les gens en surpoids. Il y a des discriminations partout.
Oui, mais la randonnée, effectivement, l'activité sportive, si tu es en surpoids, c'est plus difficile. Je veux dire, d'accord, ce n'est pas pareil que la discrimination économique.
Tu veux aller au Sacré-Cœur, dis non, si tu es en surpoids, tu vas un peu galérer pour monter les marches.
Donc c'est une discrimination. Il y a des tas de mesures aussi pour favoriser l'accès aux handicapés ou aux gens qui sont en difficulté physique. Mais c'est pas pareil que la discrimination économique. C'est pas pareil. Je suis désolé, ça n'a rien à voir.
Alors, notre invité sur ce débat, c'est Valérie Bonnède. Valérie Bonnède, elle est présidente des entreprises du voyage. C'est une organisation professionnelle qui représente les agences de voyage. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous. On rebondit bien sûr sur l'exemple de Venise, où désormais l'entrée est payante, 5 euros par touriste. Est-ce que ce serait quelque chose qui serait souhaitable dans certains coins remarquables de France?
Écoutez, c'est intéressant. Il y a plein de choses à dire. D'abord, Venise, c'est particulier en effet, quel que soit le moment de l'année, c'est surfréquenté. Donc ça n'est absolument pas pareil sur certains endroits où on voit des pics de fréquentation, où il n'y a personne. C'est un cas extrême, comme on pourrait dire peut-être Barcelone et certains autres endroits, mais très exceptionnellement. Moi, je pense, mais que faire payer. D'abord, je suis contre l'accès. C'était le débat, hein, de votre débat à l'instant. L'accès par l'argent d'une façon importante. Deuxième chose, est-ce que vraiment quelqu'un qui va dépenser de l'argent pour venir à Venise, c'est-à-dire le transport, l'hébergement, ça va être un frein pour lui de payer 5, 10 euros pour rentrer dans la ville? Moi, je ne le pense pas. En revanche, moi, je pense que premier point, la jauge. Et là, on a maintenant des applis. On a la digitalisation des processus, des réservations en anticipant, etc. C'est-à-dire qu'on a les moyens aujourd'hui qu'on n'avait pas avant de pouvoir réguler, accompagner. Pour moi, ça relève même des politiques publiques, alors soit de la ville, soit même des États. En tout cas, donner les moyens aux gens, et je serais plus pour dire quand plus on anticipe, eh ben, plus on a des chances de visiter les lieux où on veut aller. Parce que effectivement, il y a une surfréquentation clairement nocive, on l'a dit. Mais est-ce que vraiment faire payer 5 euros à quelqu'un qui veut venir à Venise, ça va? Moi, je ne crois pas du tout à ça. Ensuite, je pense
peut-être qu'après la personne elle va à Venise, et puis après elle fait Italie, elle fait Rome, elle fait Florence, elle fait Pise, et donc 5
à Paris.
Si vous êtes
un primo accédant à Paris, on n'empêchera jamais quelqu'un d'avoir envie de voir Versailles et la Tour Eiffel. Vous me dites Rome, etc. Si quelqu'un veut voir Venise, je veux dire, il viendra à Venise. Ensuite, c'est effectivement comment on accompagne les gens qui sont déjà venus ou comment on régule les flux. Nous, on est agence de voyage, tour opérateur, intermédiaire. Ouais. Je pense qu'on a un rôle à jouer, effectivement, le pas de côté, comme le disait votre interlocuteur. À Venise, et on l'a tous fait, vous allez de l'autre côté, vous allez un peu derrière, et bien vous retrouvez quasiment seul, tranquille, etc. Donc nous,
sauf que vous n'avez pas la photo, malheureusement, que vous mettez sur... Mais le surtourisme, c'est quoi? Mais le surtourisme, pour la plupart, c'est des gens qui sont avec leur téléphone et qui veulent juste montrer, regarde où je suis allé. Et donc si à Venise, ils n'ont pas la place Saint-Marc...
En tout cas, quand vous êtes accompagné, guidé, ou en tout cas quand on fait un programme pour quelqu'un, réellement, on peut proposer des moments dans la nuit, dans la soirée, on l'a fait, on l'a tous fait. Avec donc c'est comment on éduque et comment aussi, je suis aussi d'accord avec l'un de vos intervenants, le monsieur qu'on a pris à distance, il y a un sens des responsabilités et le bien-être aussi des visiteurs. Il ne faut pas croire que tout le monde est un montant de panure. Personne n'a envie d'être dans la foule. Donc il faut un peu éveiller les gens et leur donner la possibilité de le faire. Après, clairement, je pense que l'anticipation sont des choses importantes, la régulation et puis l'ouverture la nuit. Alors il y a certains pays où c'est possible. Honnêtement, ça pose des questions du droit du travail, notamment en France. Mais savoir que tous les musées sont fermés le mardi, savoir que c'est fermé le soir, ben là, vous doublez la capacité de visite. Donc, il faut aussi évoluer dans ce sens-là. Voilà ce que l'on pense.
Mais Valérie Bonnède, vous verriez un inconvénient à ce que le Mont-Saint-Michel soit payant, par exemple? Mais le Mont-Saint-Michel, mais c'est un enfer, c'est l'enfer sur Terre aujourd'hui. On peut même plus y aller, quoi.
Non, mais c'est vrai qu'on n'a même plus envie, surtout.
Bah,
je ne dis pas qu'il y a un inconvénient, mais à condition que ce soit une somme maudite. Parce que encore une fois, je pense que on l'a dit, ça peut pas être. Je veux dire, le tourisme, la visite, le tourisme parfois c'est un côté pédagogique rébarbatif, mais la visite, le voyageur, la découverte, ça fait partie de ce que les hommes aiment faire. Donc moi je crois beaucoup aux vertus d'aller découvrir ailleurs et autre chose. Mais
enfin, moi je ne serais pas contre faire payer l'entrée au Mont-Saint-Michel. Hein.
Je pense qu'il faut une régulation qui ne soit pas une régulation par l'argent. En revanche, faire payer l'entrée du Mont-Saint-Michel, malheureusement si c'est une somme modique, ça n'empêchera personne d'y aller. Honnêtement. Je pense que c'est plutôt une question de réserver en amont et de dire, au-delà de cette limite, un, il y a une dégradation du site, deux, les gens qui sont là n'ont pas le plaisir de visiter en...
C'est un enfer.
Et les habitants.
Benjamin Amar.
Non, je rebondis sur effectivement l'idée de l'éducation au tourisme, comme l'éducation aux médias, etc. Moi, je suis allé avec mes élèves au mois de mars à Venise, 50 élèves, et je leur ai fait la démonstration, par exemple, puisqu'on parle de Venise, effectivement, le couloir touristique, c'est la Strada Nuova. Vous prenez la première parallèle, il y a déjà trois fois moins de monde. Vous prenez la deuxième parallèle, il n'y a plus personne. Et je leur ai montré, je leur ai dit d'abord, je dis regardez, on n'y a pas été, je vous le dis là théoriquement, on y a été, ils ont halluciné. Et je leur ai dit voilà, la géographie du tourisme c'est comme ça. Donc quand vous voyagez, apprenez après à prendre les axes secondaires.
Les chemins de traverse.
Les chemins de traverse dans une ville comme Venise, quel que soit l'endroit, la Strada Nuova n'est pas plus belle que la deuxième ou la première parallèle. Donc l'éducation au tourisme, malheureusement on en fait peu, et c'est pourtant très utile.
Alors on est avec Liès qui est responsable commercial à Saint-Ouen-l'Aumône en région parisienne. Bonjour Liès.
Bonjour Estelle.
Et je crois que vous n'êtes pas très favorable à faire payer l'entrée des villes.
Ah, pas du tout, parce que le paiement pour l'entrée des villes existe déjà. Quand vous prenez un hôtel, quel qu'il soit en France ou en Europe, vous payez ce qu'on appelle la taxe de séjour.
Vous avez raison.
Et cette taxe de séjour est reversée aux villes et aux communes de chaque pays, quel qu'il soit, sur toute l'Europe et même dans le monde. Donc pourquoi payer une taxe supplémentaire pour entrer dans la ville ?
Non, vous avez raison. Vous avez raison.
Complètement oublié de parler
après,
de la taxe de séjour.
L'idée, c'était aussi peut-être, comme ça se fait à Venise, de préserver les lieux. Voilà, c'est ça. Et tout simplement en se disant, faire payer. Il y a des gens qui vont pas avoir envie de payer, donc ils ne viendront pas, et donc il y aura moins de touristes.
C'est une deuxième taxe.
Mais les touristes viendront toujours. Ils iront toujours dans des hôtels, dans des Airbnb, dans des auberges. Même quand vous louez une simple maison ou un appartement, vous avez la taxe de séjour à payer. Il faut seulement augmenter cette taxe-là, et ça ralentira tout petit peu les gens, mais ça va pas les arrêter.
Ben c'est vrai, voilà, c'est aussi une solution d'augmenter la taxe de séjour. Mais sauf que le truc, c'est que quand vous payez un droit d'entrée comme ça, vous avez un ticket, etc., c'est symbolique. La taxe de séjour, vous la voyez souvent même pas. En fait, vous allez à l'hôtel, vous savez que vous allez payer un prix pour une chambre.
Est-ce qu'il y a 15 euros, c'est énorme.
Oui, il est voilà. Dans d'autres endroits, c'est très élevé. Donc. Il a raison. Je veux dire, là, en l'occurrence, moi, je me l'étais noté, la taxe de séjour pour le débat, et j'ai oublié d'en parler. Mais la réflexion est éminemment juste. Donc, on vient déjà, on paye déjà à travers la taxe de séjour. Repayer derrière, c'est un pur scandale. Donc, ça veut dire que, pour le coup, pour la même réalité, vous payez deux fois. Donc, ma réflexion sur l'aspect économique, elle ne s'en trouve que renforcée.
Après, il y a aussi des gens qui vivent dans des villes très touristiques et qui sont quand même très gênés par les touristes. C'est le cas de Jean-Baptiste. Il vit à Meursault, en Côte d'Or. Vous savez, on fait du très bon vin à Meursault, évidemment. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour toute l'équipe, bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Donc, vous devez avoir effectivement beaucoup de touristes qui viennent goûter les vins du côté de chez vous, quoi.
Oh oui, bah énormément. Puis alors là, c'est la pleine saison. Là, c'est l'été, le printemps. Là, ça n'arrête pas. On a une magnifique voie verte qui, on peut traverser toute la Bourgogne en vélo dans les vignes. C'est magnifique. Donc oui, là, le tourisme est de masse.
Oui, mais alors, vous en vivez aussi, quelque part, du tourisme?
Bien sûr. Alors là, je peux vous dire que moi, Meursault, je suis à 5 km de Beaune. Beaune vit peut-être 80% à cause du tourisme, grâce au tourisme, je veux dire. Donc, oui. Mais moi, je vois, c'est surtout, dans certains domaines viticoles où il y a des clos. Donc, on parle de clos, qui dit clos, des beaux clos. Hein, on peut même parler de Romane et Conti, des grands vins. Oui, avant, c'était, je vous parle de ça, 5 ans en arrière, c'est pas énorme. On se trimbalait en vélo. On pouvait prendre une photo, aller dans la vigne comme ça, sans rien. Et maintenant, c'est coutume de faire payer peut-être 1 ou 2 euros rien que pour une photo.
Ah bon ? Mais qui fait payer ?
Propriétaire.
Non, mais dans des clous, bien sûr, il n'y a pas le chef d'exploitation à toutes les vignes.
Vous venez visiter ou faire une dégustation dans un château de vin et on vous fait payer 2 euros la photo de la vigne.
Attention, je ne suis pas pour, moi. Moi, je ne suis pas pour. Donc, justement, c'est ce que je disais justement au standard. C'est ça, c'est qu'en plus, nous, en Bourgogne, on va dire, c'est 50%, c'est 50% de là-bas. Des tourismes, c'est la Chine, le Japon, côté asiatique. Je peux vous dire que c'est eux qui achètent derrière, c'est eux qui viennent prendre des photos. Donc 2 euros une photo, plus derrière acheter une bouteille à 120 euros, je pense que la photo, elle est payée dans le prix de la bouteille, moi, je veux dire.
Je trouve
ça un peu scandaleux. Et en fait, c'est plus dans le sens, les clos font ça pour éviter justement le mouvement de foule, quoi. Parce que les clos qui font payer, c'est les clos que tout le monde veut prendre en photo. Donc on pouvait... Et en fait, c'est aussi pour pas que le personnel soit retardé.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire le personnel travaille, donc des touristes, moi j'y vois. Hein. Bon, après moi j'aime bien parce que ça fait un côté sociable, mais ils viennent vous poser des questions, quoi. Qu'est-ce que vous faites ?
Ah, bah oui.
Et comme ça, le personnel, il discute, il travaille pas. Les 2 euros, c'est presque pour payer la discussion avec le personnel, quoi. Pour payer le personnel, si vous voyez ce que je veux dire.
Je vois tout à fait. Je ne connaissais pas ces pratiques, Jean-Baptiste. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à tous ceux qui nous ont appelés sur ce débat. Et merci à Valérie Bonnette d'avoir été notre invitée. Des messages pour terminer, Rémi ?
Allez, j'ai ce message de Eric. On va voyager un petit peu avec lui. On va aller au Japon. Il nous écrit depuis Tokyo.
Super.
Record absolu au Japon de touristes au mois de mars. mars, 3 millions de visiteurs. Maintenant, c'est la grande saison du tourisme ici. Je galère pour mes voyages d'affaires, train bondé, hôtel surbooké, des zombies dans la rue. C'est déjà cher de venir au Japon et les touristes sont fixés sur les guides touristiques. Ils vont tous au même endroit.
Ça, c'est
le printemps, donc c'est les sakuras, c'est les pommiers qui sont en fleurs et donc c'est une période où il y a le plus de cerisiers, pardon, où il y a le plus de touristes en ce moment au Japon.
Les pommiers sont en fleurs, mais c'est en Normandie.
Et oui, c'est un tout petit peu loin. Faut-il faire payer l'entrée des villes touristiques, Rémi?
Alors, la réponse, elle est... Bah non. Bah, 77% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux, ça, c'est clair.
Ouais, voilà. Donc les gens sont plutôt d'accord avec Benjamin Amar. Allez, dans un instant, on parle de publicité ciblée. Vous savez, ce sont ces publicités qui nous envahissent sur Internet. Ce sera avec Charlotte Méritant et qui nous dira, Charlotte, comment faire pour s'en débarrasser définitivement. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h, Estelle Midi.
Estelle Denis.
14h31, vous êtes sur RMC, RMC Story, dans Estelle Midi, et c'est l'heure à laquelle on parle conso tous les jours dans l'émission avec Charlotte Méritant, RMC Conso.
Estelle Midi,
RMC Conso.
Et Charlotte, on parle aujourd'hui de ces publicités qui nous envahissent sur Internet, on peut dire qui nous pourrissent la vie.
Oui.
Ce sont les publicités ciblées dès qu'on fait une recherche, genre par exemple pour une petite robe rose, et bien derrière, on se retrouve pendant un mois avec que des petites robes roses sur son écran d'ordinateur.
Exactement. Alors comment ça marche ça? La première chose à savoir, c'est ce que sont les cookies. En fait, quand vous allez sur un site Internet, n'importe où, on va vous demander d'accepter ou de refuser les cookies. En général, on accepte tout un peu machinalement pour être tranquille. Or, en fait, ça a des conséquences.
Continuer sans accepter.
Exactement. Alors après, il faut vouloir accéder au contenu en payant parce que parfois, il faut payer. Mais bref, ce qui se passe quand vous acceptez, c'est tout simplement qu'il y a des régies publicitaires, donc ça va être Google et Facebook pour les principales, qui vont installer un petit traceur. C'est comme une petite caméra. Alors, ça ne va pas vous regarder, vous. Hein, ça ne va pas permettre de connaître votre identité. Mais ça va regarder tout ce que vous faites sur Internet. Et donc, comme ça, cette régie publicitaire, elle va connaître un petit peu mieux ce que vous aimez aller regarder sur Internet.
Et ça sert à quoi exactement?
Alors, en fait, tout simplement, vous envoyez des publicités en fonction de vos préférences. Exactement. Alors, par exemple, vous parliez d'une petite robe rose ou un pull rouge, n'importe quoi, que vous avez repéré sur la Redoute. Vous l'avez ajouté au panier, mais vous n'avez pas finalisé l'achat. Eh bien, la Redoute, ce qui se passe, c'est qu'elle a un contrat avec une régie pub. Alors, ça va être, on va prendre l'exemple de Google, ça va être le plus simple. Et grâce au petit traceur installé sur votre ordinateur, Google voit que vous avez cherché ce petit pull rouge et va proposer à la Redoute de vous envoyer une pub qui correspond à ce pull rouge.
Mais c'est vrai qu'il y en a partout, mais même quand je lis par exemple un article sur RMC.fr, je peux tomber sur une pub de pull rouge, quoi.
Oui, tout à fait, parce que RMC, comme beaucoup en fait de médias qui proposent du contenu gratuit, réserve des emplacements sur son site pour de la publicité. Donc RMC va confier la gestion de ces emplacements, par exemple, à Google. Ça peut être d'autres, mais je vous donne l'exemple de Google. C'est pour ça d'ailleurs que quand vous cliquez sur la petite croix pour fermer la pub, parfois vous voyez Google Ads. C'est parce que c'est Google qui gère ça.
D'accord.
Et donc Google va dire à la Redoute, tiens, bah, Madame Denis est sur RMC.fr, il y a un emplacement publicitaire qui est dispo. Est-ce que la Redoute, vous voulez lui envoyer une publicité pour son pull rouge qu'elle a regardé il y a 5 minutes sur votre site? Et en fait, c'est assez particulier parce que tout ça, ça se fait en moins d'une seconde. C'est en temps réel. Il y a un genre de système d'enchères qui fait qu'en moins d'une seconde, Google va repérer qu'Estelle Denis est sur RMC.fr et lui envoyer la pub.
Ça, franchement, ça fait peur, Charlotte. Mais alors, pourquoi, quand on clique sur refuser les cookies, ce que je fais quasiment systématiquement, sauf quand il faut payer, bon, bah là, j'accepte.
Bah, c'est ça.
Pourquoi est-ce qu'on n'a plus accès à tous les contenus du site?
Parce qu'Internet, c'est jamais vraiment gratuit, en fait. En fait, quand vous acceptez les cookies, vous permettez au site de vous envoyer des pubs qui vous correspondent. Plus ça vous correspond, plus vous êtes susceptible d'aller cliquer sur la pub et plus ça fait de rentrée d'argent, par exemple, pour rmc.fr. Ce qui nous va, puisqu'on est payé par.
C'est ça.
Mais oui.
J'ai beau refuser tous les cookies en discutant simplement avec une amie d'un pull rouge, j'ai quand même eu parfois des images de pull rouge qui se sont mis sur mon ordinateur. Est-ce que ça veut dire qu'en fait on est fliqué?
Alors, il y a beaucoup d'internautes qui ont expérimenté la même chose que vous. C'est une rumeur selon laquelle les géants du web, en fait, nous espionnent via les microphones de nos téléphones. Donc, il suffirait de parler effectivement comme ça et d'avoir une publicité ciblée. Alors, il y a eu une étude qui a été faite en 2018 qui a conclu que non. J'ai quand même posé la question
à... Moi, je suis sûre que si. Non, mais je vous jure. J'ai discuté avec une copine de fauteuil de jardin d'une marque très précise. Ma copine n'avait jamais entendu parler de cette marque de fauteuil de jardin. Le lendemain, elle était inondée publicités de pubs sur Internet. Alors peut-être que c'est une coïncidence, mais quand même c'est bizarre.
En fait, il y a plusieurs hypothèses. Et la plus probable, selon les experts que j'ai interrogés, c'est en fait que soit vous ayez, sans le vouloir, relié votre voix à votre assistant vocal. OK Google ou dit Siri, vous voyez, quand vous faites une recherche par l'assistant vocal comme ça de votre téléphone, ça peut vous envoyer de la publicité ciblée. Ça, c'est relié à Google et donc ça peut. Mais c'est aussi que de toute façon, vous êtes en permanence connecté sans même vous en rendre compte. Vous avez votre ordinateur connecté à Facebook, vous allez sur Instagram sur votre téléphone, c'est le même groupe. Donc en fait, la publicité ciblée, elle va relier votre ordinateur à votre portable. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que ça vous donne, tout simplement parce qu'on est connecté partout, tout le temps, en permanence.
Bon, alors, comment je fais quand je veux plus de pub?
Bah, tout simplement.
Ça, la question, là. Comment on fait là?
Vous refusez les cookies, alors il faut être prêt à payer pour certains contenus. Vous allez dans les paramètres de votre compte, que ce soit Google, Facebook, Instagram, etc. Et vous retirez tous les cookies. J'ai une astuce pour vous si jamais vous ne voulez pas vous embêter à aller sur chaque site. Vous allez sur youronlinechoices.com, youronlinechoices.com, et ça vous permet de gérer tous vos cookies.
Mais ça, c'est génial. Youronlinechoices.com, je suis en train de le marquer pendant que je vous parle. Merci beaucoup, Charlotte Méritant, si ça peut nous éviter d'être constamment submergé par la pub. C'est absolument génial. Charlotte, on parle de quoi demain?
Demain, on va parler d'objets de puériculture. Alors, moi, je n'ai pas d'enfant, mais je vois souvent des parents à la gare galérer avec les poussettes, les machins, les trucs. Il y a des systèmes de location maintenant sur les lieux de vacances qui sont hyper pratiques.
Eh bien, écoutez, on en parle demain avec vous, RMC Conso. C'est tous les jours, 14h30 dans Estelle Midi et en podcast, bien sûr, si vous voulez retrouver tous les conseils de Charlotte sur rmc.fr, l'appli RMC et toutes vos applis de téléchargement. Dans un instant, les immanquables, Rémi, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. On aura quoi?
On va parler notamment de Mathilde Panot, convoquée par la police, et de la croix de la discorde en Corse.
Ah, eh ben écoutez, très bien. Ce sera dans un instant sur RMC, RMC Story, dans Estelle Midi. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis. Il est 14h40, c'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story avec Rémi Barré, avec Thierry Moreau, Benjamin Hamar et Perico Légas. Et tout de suite, voici les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui.
RMC, Estelle Midi,
les immanquables.
Et Rémi, on va commencer avec la convocation du jour.
La chef de file des députés de la France Insoumise, Mathilde Panot, annonce avoir reçu une convocation de la part de la police dans le cadre d'une enquête pour apologie du terrorisme. Elle est convoquée après-demain, notamment sur le fait que sa formation avait refusé de qualifier de terroriste l'attaque du Hamas du 7 octobre dernier contre Israël. Mathilde Panot parle aujourd'hui d'une instrumentalisation de la justice visant à bâillonner des expressions politiques. Quant au leader de la France Insoumise, évidemment, il a déjà réagi, Jean-Luc Mélenchon. Et lui, il parle tout simplement de manœuvres pour couvrir un génocide à Gaza.
Est-ce que Jean-Luc Mélenchon a raison, je veux dire, de réagir, et est-ce que la police a raison de convoquer Mathilde Panot?
Il est dans l'outrance. Quand on a une parole politique, il faut peser le poids des mots de la parole politique. Lorsque dans le communiqué,
c'est le poids de l'absence de mots.
De Mathilde Panot dit que c'est une offensive armée de forces palestiniennes, pour parler des terroristes du 7 octobre, en réponse à une intensification politique de l'occupation israélienne. D'ailleurs, à l'époque, Gaza n'était plus occupé par l'armée israélienne depuis des années, mais peu importe, c'est pas grave, ils sont pas à un détail près. Bah, le poids des mots a une importance, et donc il est logique, alors je ne sais pas ce que ça donnera, la justice va enquêter, il est logique qu'on s'intéresse à savoir si oui ou non c'est de l'apologie du terrorisme au regard du droit. Ça me paraît tout à fait logique. Il y a un moment, on ne peut pas raconter n'importe quoi en politique, il faut assumer ses mots, ses choix et ses déclarations.
Vous êtes d'accord avec ça, Benjamin Hamar?
Non, ça c'est un sujet assez complexe quand même. Moi, j'ai été en désaccord, et je le suis toujours, avec un certain nombre d'organisations qui, au moment du 7 octobre, ont eu des propos consistant à euphémiser, à minimiser, et ont eu beaucoup de mal à dire que le Hamas est ce qu'il est, c'est-à-dire une organisation terroriste fanatisée qui a commis un carnage. Alors, l'histoire, c'est que l'apologie du terrorisme, c'est faire, c'est dire que le terrorisme, c'est quelque chose de, c'est voilà, enfin en l'occurrence, c'est glorifier une action. Moi, j'estime que c'est
ou justifier.
Alors, j'estime que certains, comment dire,
militants ou dirigeants de la France insoumise, au moment où les faits se sont déroulés, ont eu une certaine ambiguïté ou de, un pro, des propos ambigus. Il y a eu depuis et rapidement, y compris de la France insoumise officiellement, des propos qualifiant de crimes de guerre, en disant clairement que ce qui s'était passé le 7 octobre était horrible. Mais ici ou là, il y a eu des déclarations problématiques. Moi, je pense, vous savez, j'ai un camarade de la CGT à l'UD du Nord, Jean-Paul Delescot, qui a été chopé à 6h du matin par la DGSI pour un tract et qui a été jugé avec un an de prison avec sursis.
Moi, pour apologie du terrorisme.
Voilà, pour apologie du terrorisme. Moi, j'étais pas d'accord avec ce tract. Ce tract, il me convenait pas, mais à aucun moment, c'était de l'apologie du terrorisme.
D'accord.
C'était une expression...
Ça va trop loin.
Voilà, bah non, c'est-à-dire que moi, j'estimais...
C'est parce que la justice...
Moi, j'ai... Mais non, mais... Très bien. Attends, je donne mon point de vue et je l'ai lu le tract et moi j'ai commencé les tracts de la CGT que nous avons rédigés. Ils commençaient d'abord par dénoncer l'horreur du 7 octobre, etc. Ce communiqué, il procédait pas de la même chose, mais à aucun moment il ne glorifiait le Hamas, ni de près ni de loin. Donc je dis attention, c'est un sujet politique tant complexe qu'on ne réglera pas par des convocations au commissariat. Et je pense que là, Mathilde Panot n'aurait pas dû être convoqué, même si je suis en désaccord avec ce que tu as dit là, je suis en désaccord complet avec la communication.
C'est juste qu'il y a une enquête qui est en cours.
Exactement.
Et qu'il est normal que les personnes qui sont impliquées dans cette enquête soient convoquées par la justice.
Mais toi, tu dis ça, mais moi, je dis pas ça.
Ah, bah, très bien. Mais
une décision,
c'est ce qu'on appelle un état de droit.
Voilà, à un moment, il y a la justice qui tranche.
En l'occurrence, je te le redis, parce que tu m'as pas entendu, depuis, il y a eu des déclarations nombreuses, y compris de Mathilde Panot, qui a dit qu'il y avait eu des crimes de guerre, etc. Mais moi, je te dis qu'en fonction du contexte,
ça sera retenu par l'enquête.
On aurait pu considérer ça dès maintenant. Et je pense que là, politiquement, ce que l'on fait, à mon avis, c'est pas bien.
Voilà, donc il y a une manœuvre politique.
Je pense qu'il y a effectivement une manœuvre politique
donc,
derrière.
La justice est manipulée par la politique.
Je ne dis pas ça, mais je dis que là, clairement, ça entretient.
Très bien.
Tu écoutes ce que je suis précis.
Oui, mais moi aussi.
Non. Moi, j'ai jamais dit, je dis que là, je pense qu'on ne prend pas la chose par le bon fil et qu'effectivement, on aurait pu faire autrement au vu des déclarations qui ont suivi, que tout le monde a pu lire.
Perico Légas.
Autant de prudence et de subtilité sémantique de la part de tous les camps prouve qu'il y a un gros malaise par rapport à cette affaire. On va faire tout simplement un constat des faits. L'abomination qui s'est produite le 7 octobre en Israël est un des actes depuis longtemps les plus atroces, les plus abjects. C'est inqualifiable par une organisation liée au mouvement Libération de la Palestine. Mais ce qui s'est passé le 7 octobre est du terrorisme caractérisé dans sa version la plus ignoble, la plus abjecte et la plus injustifiable. Toute personne qui a trouvé ne serait-ce qu'un début d'explication à ce qui s'est passé le 7 octobre, où il y a eu des éventrations et des massacres dans des maisons privées chez des civils, est absolument intenable. Intenable, surtout de la part de partis politiques qui se disent démocratiques, républicains, droits d'homme et compagnie. Quand on sait qu'il y a quelques jours, Jean-Luc Mélenchon comparait un président d'université à Eichmann, qui était un des plus grands génocideurs de l'Allemagne nazie, je crois que la France insoumise a besoin aujourd'hui de faire un séminaire de reconsidération de ses propos.
À Jornamiento.
Voilà, Jornamiento, qui se parle entre eux. Madame Panot n'est pas à sa première outrance. Après tout, la justice, je ne pense pas que ça aboutisse, on ne sait pas, je ne présage pas. Voilà. Est-ce qu'il y a eu une phrase d'apologie, c'est-à-dire dire ce que le Hamas a fait? Eh bien, là où nous serions dans l'apologie du terrorisme, c'est pas un mouvement terroriste, ça a été un mouvement, j'allais dire...
Elle a refusé de dire, elle n'a pas dit que ce n'est pas un mouvement terroriste, elle a refusé de dire que c'était un mouvement terroriste.
Il est bien que la justice de la République, à un moment donné, fasse savoir qu'on est sur le seuil limite, que la ligne rouge peut être franchie, et que, attention, à un moment donné, la justice s'emparera de certaines déclarations et certains propos dans des conditions qui, à la date d'aujourd'hui, sont une tragédie mondiale et pour lesquelles il y a eu beaucoup de lâcheté, beaucoup de mensonges et beaucoup de non-dits. Ça ne justifie pas ce qu'Israël est en train de faire à Gaza, qui est une autre forme d'abandon.
Bien sûr, c'est autre chose. D'accord.
Mais c'est autre chose. La grève du jour.
La grève du jour, c'est celle qui va se produire après-demain dans les airs. Les voyageurs en avion vont devoir se faire preuve de patience. Jeudi, donc, une journée annoncée comme très difficile. Les aiguilleurs du ciel français prévoient une mobilisation record après l'échec des négociations sur les mesures d'accompagnement d'une refonte du contrôle aérien. Ça porte notamment sur les salaires. Et selon certaines sources, jusqu'à 60 75 ou 60, 65 à 75% des vols pourraient être annulés à Orly et à Roissy.
Voilà, il ne faut pas partir jeudi pour le coup en week-end. Ça vous agace ces grèves, Thierry Moreau, ou finalement, bah, comme on l'a vu avec la SNCF, quand on voit que ça a des chances d'aboutir, c'est normal que les contrôleurs aériens fassent grève?
On est toujours dans la même problématique, une petite minorité qui sait qu'elle a un pouvoir de nuisance extrêmement important. Bah, active ce pouvoir de nuisance à un moment donné pour faire avancer ces revendications salariales qui peuvent être légitimes. Encore une fois, là-dessus, je rejoindrai Benjamin. Mais en revanche, avoir ce pouvoir de nuisance et le déclencher, tirer la première cartouche avant même de discuter et savoir qu'on a un pouvoir de nuisance très important me gêne beaucoup. Et je ne crois pas au ruissellement vers les autres professions en disant nous sommes l'avant-garde de la lutte et si on gagne, eh bien les autres gagneront derrière. Ça, évidemment, c'est la fable que nous sert à chaque fois les syndicalistes comme Benjamin.
Non, le ruissellement, c'est la fable que raconte Emmanuel Macron depuis son élection en 2017. C'est ça, le ruissellement. Nous, on parle pas de ruissellement, on dit qu'effectivement, il faut construire le rapport de force partout. Le pouvoir de nuisance, c'est pas un pouvoir de nuisance, c'est le rôle que vous avez dans le processus économique. Je donne souvent cet exemple. Les professeurs des écoles, ils ont aussi un pouvoir d'action extrêmement important, stratégique, parce que s'ils se mettent en grève massivement, il y a plus personne qui peut partir au boulot. Et donc, moi, je pense que l'économie, je ne pense pas, c'est une réalité, l'économie capitaliste est fondée sur le rapport de force, et dans la réalité qui est la nôtre, tout le monde doit réfléchir collectivement à sa possibilité de participer à la construction d'un rapport de force pour gagner des droits légitimes.
Salaire moyen d'un aiguilleur du ciel, 4 900 euros.
Non mais, c'est quand même un boulot où il y a des responsabilités.
Salaire moyen, d'accord, mais salaire moyen d'un aiguilleur du ciel, 4 900 euros au début de carrière.
Contrairement à ce qu'on dit tout le temps, la CGT n'est pas une organisation ouvriériste, elle reconnaît aux cadres et aux gens qui gagnent bien leur vie de pouvoir eux aussi avoir des revendications légitime, c'est le cas en l'occurrence.
Oui, tu sais, quand les grands patrons ruinent leur société, eh ben, ils partent avec une prime quand même. Tu connais quand même M. Zacharias.
C'est scandaleux.
Donc, alors, je dis à Benjamin et à Thierry, le droit est un droit, tout abus de droit porte préjudice à ce droit. Voilà. Donc, quand on abuse d'un droit de façon un petit peu excessive, à un moment donné, on le fragilise, on le discrédite, c'est tout. Donc, sachons ne pas franchir les mesures qu'il ne faut pas franchir.
C'est très beau, Péricot. Nous allons arrêter là-dessus et recevoir tout de suite Vincent Cerroussi, notre humoriste. Cerroussi n'a pas tout compris.
Cerroussi.
RMC, Estelle Midi.
Cerroussi n'a pas tout compris.
Pardon, bonjour Estelle.
Bonjour Vincent.
Peter Pan d'ailleurs, je ne sais pas.
Non, mais parce que je suis habillée en vert.
Ah oui, je sais. Ça a fait clochette.
Aujourd'hui, Vincent, vous n'avez pas bien compris la polémique sur le dialogue entre Gabriel Attal et un jeune élève d'internat.
Ah oui, vous en avez parlé. On a vu la vidéo de Gabriel Attal en visite dans un internat pour élèves en difficulté. Mais on ne sait pas qui était en difficulté, là, entre les élèves ou Gabriel Attal. On pensait que Gabriel Attal était absolument indéstabilisable. Bah, tu lui mets un élève de 5e, le mec s'effondre directement. Et dialogue était malaisant. Franchement, sur l'échelle de la gênance, on est pile entre un concert d'Afida Turner sur le plateau TPMP et une blague de Tex. En revanche, je ne comprends pas qu'on vienne embêter Attal juste parce qu'il a le malheur de tutoyer un ado. Ils ont 3 ans d'écart, laissez-le tranquille, quoi.
Non mais ce qui est sûr, c'est quand même que Gabriel Attal avait l'air très en difficulté.
Ah ben bah, dès le début, hein. Dès le début, l'élève demande à Gabriel Attal s'il est riche. Gabriel Attal bug, oui, on sait pas trop. Alors que pour le coup, moi je pensais que Gabriel Attal allait la jouer franc-jeu, quoi.
Ma question préférée.
Ah oui, bien sûr. Il s'est payé un hôtel particulier à Matignon, je veux dire, il a de la thune, quoi. Mais bon, ce qui m'a le plus surpris, c'est surtout la réponse d'Attal sur Macron.
C'est quoi de Macron?
Ah bah moi je travaille avec lui donc.
Je bosse avec lui donc il y a beaucoup de mystères après ce donc.
Il a un peu voté en touche.
Bah deux doigts de dire je peux pas le pifrer en fait. Bon, je bosse avec lui. On dirait un peu Rémi quand Estelle est pas là. Bon, je l'aime bien mais bon je présente.
Je bosse avec elle.
C'est ça, c'est un peu compliqué.
Le dialogue s'est arrêté en fait quand le jeune a affirmé que Macron était méchant.
Ah oui Macron méchant. Tout stoppé tout de suite. Gabi était très mécontent.
Comment ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tu dis ça?
Oula, t'es à deux doigts de lui dire... À deux doigts de lui dire...
Comment tu parles de ton père? T'as pas honte? Qui c'est qui t'a nourri?
C'était tendu quand même, hein. Alors que bon, comme l'a dit Benjamin, avec lui, ses élèves se tiennent à carreau. Hein. Benjamin rentre dans la salle et là, les élèves se lèvent et disent tout de suite...
Vive à jamais notre cher et grand Staline, vive le communisme!
Voilà, tout de suite, il y a plus de peps, quoi. Non, parce qu'en vrai, la solution pour l'autorité, on la connaît. D'ailleurs, c'est vous, Estelle, qui nous l'avez donnée.
Vous préférez exactement. Bayrou qui met une gifle à un gamin parce
que il est allé. Ah bah oui,
évidemment. Oui. Ah bah oui, mais une bonne torgnole. Ah oui. Une bonne torgnole, puis c'est réglé, voilà.
Dans Estelle Midi, Vincent, on s'est aussi demandé s'il fallait faire payer l'entrée des villes touristiques.
Écoutez, oui, c'est vrai que pour éviter qu'il y ait trop de touristes, bah oui. Notamment dans la ville de Venise, hein, ils veulent faire payer 5 euros aux touristes pour entrer dans la ville. Bon, après, j'allais dire, c'était la flemme de payer 5 euros pour aller à Venise. Bon, tu vas à l'Aqua Boulevard. C'est plus cher, mais bon, au moins il y a les toboggans en option. Enfin, c'est pas mal, voilà. Après, il est précisé qu'il s'agit d'une expérimentation et que c'est la première fois que dans le monde que ça arrivera. Alors ça, par contre, c'est pas vrai. Hein. La dernière fois, j'étais à Marseille, on m'a demandé mon portefeuille, donc c'est n'importe quoi. Hein, oui. C'est comme à Paris, le café est à 4 euros. On paye une taxe tous les jours dans cette ville.
Mais vous pensez que c'est une bonne idée, ça, Vincent, cette taxe de 5 euros?
Écoutez, en fait, il faut se le permettre, Estelle. Par exemple, tu vas à Mulhouse, là, c'est l'inverse, ils te payent pour que tu restes chez eux. Ouais, sinon, tout le monde quitte la ville. Après, je sais pas si 5 euros, ça va arrêter les touristes. Les Italiens devraient s'inspirer de nous, en fait. Nous, Français, nous, on a mis des pickpockets, on a mis des travaux, on a mis des grèves tous les dimanches. Ça cartonne beaucoup mieux, les gens viennent plus. Ouais.
Mais il faut agir hein, quand même, parce qu'il y a tellement de touristes que parfois les monuments tombent en ruine.
On agit, Estelle, on agit. Certains pays ont décidé de fermer de vieux monuments historiques pour les préserver, notamment en France avec Michel Drucker, Thierry Moreau et Robert Sebag. Mais oui, mais vous l'avez abîmé, mon Thierry. Vous lui posez 20 000 questions tous les jours, alors que lui, tout ce qu'il veut, c'est collectionner des capsules de bière et des timbres périmés. Voilà, bah, préservons Thierry Moreau.
Merci beaucoup, Vincent Cerussi, tous les jours à 14h50 dans Estelle Midi, en podcast rmc.fr, l'appli RMC et toutes vos applis de téléchargement. Et tout de suite, on va retrouver un autre monument. C'est Vincent Moscato, le super Moscato Show en direct de La Rochelle.
Oh, quelle émission vous avez fait, je vous ai écouté. Ouais, ouais. Magnifique, vous êtes magnifique. Alors, on est en direct du stade Rochelet, au centre d'entraînement. Mmh. On aura des invités, ça va être très rugby. On aura l'entraîneur Ronan Nogara, on aura Brice Dulin, on fait que des internationaux.
Génial.
Oh, bien entendu, Grégory Aldrit, le capitaine de l'équipe de France, et Winnie Antonio, l'homme et demi. Et peut-être une grosse surprise que je vois arriver de loin. Voilà, il est là, avec des grosses lunettes. Voilà, il est comme ça, c'est comme ça. C'est le super Moscato Show en direct du stade de Borseux.
Mais attendez, c'est qui la surprise, Vincent?
Ah ben la surprise, je ne peux pas te le dire.
Il est un peu sélectionneur.
Il a joué au rugby. Je peux pas vous dire plus. Il a joué au rugby.
Avec des lunettes.
Ouais. Il a des lunettes. Il jouait parfois deuxième ligne, parfois troisième ligne, mais souvent deuxième mêlée.
Souvent deuxième mêlée.
Voilà, vous l'avez ou quoi?
Ouais, on l'a.
On va faire le bilan de la.
Il sera bon.
C'est ça, on va refaire le bilan de la Coupe du Monde de rugby. Merci beaucoup, Vincent. Le Super Moscato Show, c'est tout de suite. Et nous, on se retrouve demain, midi 15h, dans Estelle Midi. Salut et bonne fin de journée sur RMC.